images choquent, des images insoutenables de poulets trop gros pour leur âge pour pouvoir marcher, des poulets qui gisent sur le sol d'un entrepôt, qui ne verront pas la lumière du jour et qui vont terminer aspirés par une moissonneuse avant d'être expulsés par une sorte de canon dans un camion direction l'abattoir. Ces images ont été publiées la semaine dernière par l'association de protection des animaux L214. Ces images ressemblent aux très nombreuses autres vidéos publiées par cette même association depuis des années qui font cumuler des millions de vues et qui suscitent auprès du public une vive émotion. Mais ces vidéos servent-elles, je vais arriver à le dire, vraiment à faire changer les choses? Et quelle stratégie surtout pour quelle diffusion? Bonjour Brigitte Gauthier.
Bonjour.
Vous êtes la directrice et cofondatrice de l'association L214. D'abord, ce terme L214, est-ce que vous pouvez l'expliciter?
L214, en fait, on s'est servi du code rural qui, en 1976, reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles et, très important, qu'ils doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Et si on regarde cet article-là, du coup, on peut se rendre compte que la majorité des animaux aujourd'hui sont élevés dans des conditions qui ne respectent pas cet article, puisque 8 animaux sur 10 qui arrivent dans les abattoirs sont dans des élevages intensifs, c'est-à-dire ces élevages qui ne leur laissent aucun accès au plein air.
Et cet article-là porte le matricule L214. Vous avez publié une enquête jeudi dernier avec vidéo à l'appui dans les coulisses d'un élevage intensif de poulets de la marque Le Gaulois groupe LDC. Qu'a montré votre enquête?
Notre enquête, elle montre que finalement, LDC, la question du bien-être animal, c'est une opération de communication et non une réalité pour les animaux. Alors évidemment, le bien-être animal, c'est un concept qu'on a inventé qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'on essaye de mettre des animaux dans des conditions un peu moins pire, puisque l'objectif au final c'est toujours de les mettre à mort pour pouvoir les manger, alors qu'aujourd'hui on peut rappeler qu'on n'en a pas besoin, mais en tout cas voilà, et souvent les entreprises s'en servent comme argument de vente pour essayer de rassurer les consommateurs qui évidemment ne souhaitent pas manger des animaux qui ont vécu dans des conditions terribles. Sauf que la réalité c'est 3 millions d'animaux tués par jour et une grande majorité qui vient d'élevages où ils n'ont pas eu accès au plein air, où ils sont sélectionnés génétiquement comme ces poulets avec leur tête de poussin sur leur corps de poulet.
Ils sont sélectionnés pour grossir plus vite, évidemment, pour que ce soit plus rentable.
Pour grossir plus vite, pour d'autres c'est pour faire plus de lait, plus d'œufs, plus de chair, on a toutes les configurations. Ils sont mutilés pour la plupart des animaux, les poules pondeuses on coupe le bec, les cochons on va leur couper la queue, on va leur limer les dents. Donc on essaye d'adapter en fait les animaux à des conditions de vie hostiles et l'objectif c'est d'en mettre le plus possible dans le moins d'espace possible.
Ouais, nous on pensait que c'était interdit mais pas du tout, on voit toujours ces images, vous parliez de cochons, ce genre d'images, je vais généraliser, on a l'impression de les voir systématiquement depuis plusieurs années déjà. Combien d'enquêtes publiez-vous par an?
On en publie un peu plus d'une dizaine par an avec justement l'objectif d'essayer de toucher les médias, mais après on en sort plus que ça sur les réseaux sociaux.
On va parler de la deuxième partie de votre phrase, l'objectif est de toucher les médias. Vous avez démarré en quelle année? En 2004, c'est bien ça?
Alors en 2003-2004, on a créé Stop Gavage et on se concentrait sur la production de foie gras. Et effectivement, à cette époque-là, on n'était pas du tout... on travaillait à côté et c'était en plus en travail bénévole qu'on faisait ça. Et en 2008, en voyant que justement, juste avec des tout petits moyens, on arrivait quand même à intéresser les journalistes qui étaient intéressés par notre travail d'enquête finalement, puisque notre travail d'enquête, il y a évidemment les images, mais il y a aussi tous les dossiers qui sont derrière, renseignés. Quand on montre des images d'élevage de cochons, avec ces truies qui sont enfermées dans les cages ou les petites têtes à travers les barreaux, on est capable de dire aujourd'hui que c'est 95% des cochons qui sont élevés de cette façon-là, parce que justement, on a fait un travail derrière documentaire. Donc tout ce travail, on voit que ça a intéressé les médias, que notre expertise a permis de mettre à jour une production, la production de foie gras, qui est quand même la seule qui consiste à rendre malades les animaux pour leur faire produire du foie gras, donc une stéatose hépatique, maladie qu'on mange. Et en voyant ça, en 2008, on a créé L214. Et là, pour le coup, on a dit, on va essayer de dégager du temps à des gens pour se consacrer entièrement à la question animale. Et évidemment, notre objectif, ça va être à la fois de nous adresser au grand public, mais aussi aux entreprises et aux politiques. Et pour ça, effectivement, on s'adresse aux médias.
Alors justement, on est ici une émission média. Comment vous les contactez, à savoir les chaînes de télévision? Parce que je précise que maintenant, ça passe par les réseaux sociaux. Mais quand vous êtes lancé, les réseaux sociaux n'existaient pas. Mm-mm. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'il y avait des gens qui renaclaient? Comment ça s'est passé, les premiers contacts? Et comment ça se passe? On parlera après de la deuxième partie.
Alors les premiers contacts, ça a été du un par un. Et puis petit à petit, en fait, en voyant le sérieux de nos enquêtes, la matière qu'on pouvait amener, les preuves, les sources, on a développé effectivement des journalistes qui avaient confiance, qui continuaient de vérifier, hein, mais qui avaient confiance dans les informations qu'on amenait. Et c'est comme ça qu'on a créé petit à petit un réseau de journalistes auxquels on peut envoyer nos informations en avance par rapport à nos sorties.
À l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et donc où beaucoup de filtres existaient encore, est-ce que parfois des rédactions ont refusé de diffuser des images parce qu'elles étaient trop dures ?
Alors encore aujourd'hui, je dirais, les images, elles sont floutées à l'extrême. Parfois, on voit même plus les images, c'est juste un carré flou.
Oui, mais pas sur les réseaux sociaux.
Voilà. Alors sur les réseaux sociaux aussi, mais dans les médias aussi, vous avez des chaînes qui peuvent... Alors, il y a certaines chaînes qui ne diffusent pas les images tout simplement parce que c'est trop horrible, parce que on a déjà vu, parce que tout un tas de raisons. Hein. Nous, on propose, après, les médias disposent. Et puis, effectivement, il y a souvent... les images les plus terribles ne sont pas passées, notamment en ce qui concerne les abattoirs, hein, puisque regarder des animaux mourir en face, ben c'est extrêmement difficile, que ce soit fait selon la législation en vigueur ou que ce soit en dehors de la législation, puisqu'on montre les deux. Et donc, du coup, voilà, ça dépend des médias.
Je suis d'accord, et je vous pose la question avec d'autant moins de gêne qu'ici on est à la radio, donc la question ne s'est pas posée de savoir
exactement
si on les diffusait ou si on ne les diffusait pas, mais juste pour dire, ces images de poulets sont absolument insoutenables. Vos vidéos sont des enquêtes, mais vous n'êtes pas journaliste, vous le dites vous-même. Mm-hmm. Comment menez-vous vos investigations ?
Et bien là-dessus, on va rester quand même assez discret sur comment on les mène. Je peux raconter quelques événements dans le passé, mais on a quand même comme menace, comme épée de Damoclès au-dessus de la tête, la cellule Déméter, qui porte fort mal son nom, qui est une cellule issue d'une convention passée entre Gendarmerie nationale, ministère de l'Intérieur et puis deux syndicats agricoles extrêmement puissants et qui défendent le productivisme, l'élevage intensif, notamment l'agriculture industrielle, que sont la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et l'objectif de cette cellule, c'est de mettre sous surveillance les activistes, les personnes, les associations.
Pardon, ça c'est votre lecture. Ils disent pas notre objectif est de mettre sous surveillance les activistes. C'est quoi l'objectif
avoué ? L'objectif, non, c'est écrit dessus noir sur blanc. D'un côté, il y a 15 000 vols de GPS, de tracteurs, etc. pour lesquels on n'est pas concerné. Et puis de l'autre côté, il y a des actions qui sont dénoncées, des actions même d'information qui sont dénoncées pour dire quand on critique le modèle agricole actuel, on fait de l'agribashing, hein, qui a été un terme
bien
propulsé
sûr
par la FNSEA, pour éviter finalement toute critique du modèle agricole.
Ensuite, ces images, comment les obtenez-vous ? Comment vous parviennent-elles ? Est-ce que c'est vous qui les filmez ? Est-ce que ce sont des relais qui vous les donnent ? C'est la réponse dans la deuxième partie de Culture Média. Nous sommes avec Brigitte Gauthière, fondatrice et directrice d'EL214. A tout de suite dans Culture Média. En compagnie de Brigitte Gauthière, fondatrice et directrice de l'association EL214, association de défense des animaux. C'est cette association notamment qui fournit aux chaînes et aux réseaux sociaux des images parfois terribles de ce qui se passe à l'intérieur des abattoirs qu'on ne voit jamais évidemment dans les émissions habituellement. Pour avoir justement ces images chocs qui vont atteindre les médias, qui vont atteindre le public, il faut pouvoir les filmer. Comment faites-vous pour les avoir ? Ce sont des équipes à vous, ce sont des complices ou les deux ? D'où viennent ces images ?
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails comme j'ai dit juste avant, mais par exemple, je peux évoquer Mauricio Garcia Pereira, qui était ouvrier à l'abattoir de Limoges depuis 6 ans, et qui, quand il a vu les premières images justement médiatisées d'abattoirs qu'on a montrées, a dit « Mais chez moi, c'est pire, je vais vous montrer l'abattage des vaches gestantes, celles qui attendent des petits. »
Et là, on est en quelle année ?
Là, on est en 2016. Il y a eu Grégory cette année qui a montré comment les cochons à Trembla étaient élevés, les coups de tournevis, mais aussi juste structurellement l'élevage sur caillebotis et tout ça qui est terrible pour les animaux, la coupe des queues, etc. Et puis on a eu Thomas qui s'est infiltré dans l'abattoir Bigard de Cuiseaux et qui a pu montrer les conditions d'abattage, mais aussi dénoncer les carences des services de l'État, des contrôles de l'État. Donc voilà, ça fait un petit panel.
Est-ce que, comme des journalistes que vous n'êtes pas, est-ce que vous revendiquez, vous contactez toutefois les personnes mises en cause, c'est-à-dire les groupes de l'agroalimentaire, pour entendre leur version des faits avant publication ?
Alors, quand on relit, comme par exemple, c'est le cas de l'enquête LDC, effectivement, on a écrit à LDC pour leur demander un engagement pour arrêter les pires pratiques d'élevage et d'abattage des poulets. on s'est fait, on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu d'engagement, et donc du coup, oui, là pour le coup, dans ces cas-là, on a des contacts avec les entreprises pour leur demander des avancées, ce qui a donné.
Est-ce que vous avez prévenu, par exemple, la société Le Gaulois que les images allaient sortir jeudi dernier?
Non, parce que ça, on le faisait dans le passé. On l'a fait en 2013, et puis on s'est retrouvé devant les tribunaux en référé, et puis on a eu interdiction de publier les images. Donc on ne le fait pas. Maintenant, on publie, et puis ensuite, on peut discuter sur la base des images, mais les groupes sont tellement puissants. L'industrie de la viande, il faut savoir qu'elle est extrêmement puissante. Maintenant, on obtient des avancées.
Ce qui est très étonnant, c'est que les Français soutiennent vos causes et massivement. Sondage paru dans le JD en octobre dernier, c'était l'IFOP qui avait interrogé les Français autour des mesures phares proposées par Yves Jadot. L'essentiel est ceci, la sortie progressive de l'élevage industriel est plébiscitée par 82% des Français. Mm-hmm. Pourquoi on n'en sort pas, d'autant qu'entre-temps, par rapport à vos débuts de l'association, il y a l'iPhone qui est arrivé, c'est n'importe quel employé peut filmer.
Tout à fait.
Pourquoi les entreprises ne changent pas leurs pratiques, ou à la marge, ou si peu, ou si lentement?
C'est une bonne. Il faudrait demander aux syndicats agricoles majoritaires. Mais quand on rencontre les éleveurs, on est en contact avec beaucoup d'entre eux. Ils nous parlent des coopératives qui décident tout. Ils nous parlent de leur endettement auprès des banques pour des dizaines d'années. Et donc, du coup, un système qui a du mal à se remettre en cause, mais qui se remet en cause quand même. Quand on a commencé avec L214, 80% des poules pondeuses étaient détenues dans des cages. On a fait des campagnes. On s'est adressé aux politiques. Fin de non-recevoir. On n'a quasiment rien obtenu, sauf l'interdiction des nouvelles installations, mais qui actait déjà l'existant. Par contre, on s'est adressé aux supermarchés, aux fabricants, à l'hôtellerie-restauration et aux producteurs. Et là, le chiffre de 80% en 2008 est passé à 36% aujourd'hui, et les engagements courent jusque 2025. Donc en 2025, normalement, l'élevage en cage des poules pondeuses va disparaître. Pour les poulets, on a obtenu l'engagement de tous les supermarchés déjà. Donc ça, on peut participer en s'inscrivant sur L214.com, on a les actions express, et c'est par cet intermédiaire-là qu'on peut réussir à convaincre les entreprises de bouger.
Brigitte Gauthier, vous n'êtes pas la seule à lancer des pétitions en ligne. Il y a une pétition qui demande la dissolution de votre association sur change.org, publiée par un compte Paysans de France, 16 000 signatures. Il y a assez de ces animalistes présentant les éleveurs comme des tortionnaires, des gardiens de camps de concentration. Je cite, le personnel des abattoirs comme des assassins et les consommateurs de viande comme des zoophages. Cette idéologie porte en elle-même des germes idéologiquement très dangereux et non démocratiques, dit l'association. Je ferme les guillemets ici. Et la journaliste du Point, Géraldine Vosner, a commenté la création de cette pétition sur Twitter. Elle dit « Les victimes de cette nouvelle forme de terrorisme se rebellent ». Et voici ce qu'elle disait en décembre 2020 à propos de votre association, vidéo publiée sur le site du Point.fr.
La sidération, c'est un élément essentiel de la stratégie de L214. Vous recevez des images atroces et il faut que l'émotion soit immédiate. Cette émotion annihile la raison, elle vous empêche de prendre de la distance. La dernière vidéo d'L214 met en scène un élevage de cochons dans l'Allier. Elles sont extrêmement choquantes, on voit des bébés sanguinolents, on voit des porcs entassés. Le problème, c'est que ces images ne nous disent pas grand-chose. Par exemple, on sait que des truies ont déporté en moyenne de 12-15 porcelets. La mortalité naturelle, elle est de 10% chez les cochons, dans n'importe quel type d'élevage.
Qu'avez-vous à répondre à vos détracteurs? C'est qu'un exemple de critique qui vous est faite.
Là, on a affaire à des communicants, finalement, au service de l'industrie de la viande. Donc, évidemment, ils ne vont pas trouver l'action qu'on peut avoir.
Là, ce n'est pas des communicants, c'est Géraldine Vosner, c'est les journalistes, hein,
oui,
c'est pas une communicante du tout.
Paysans de France, c'est Olivier Mével, c'est un communicant des filières qui est payé par les filières, donc il a intérêt à justifier son salaire en faisant
ça,
des choses.
Ça, c'était la pétition. Et sur l'argument de Géraldine Vosner?
Alors, il est faux, d'autant qu'elle a commenté effectivement l'élevage de cochons préférence ERTA. Donc, ERTA qui vous dit qu'en matière de bien-être animal, ces élevages préférence, ils sont quand même le haut du panier. Il y a des efforts qui sont faits. Et donc, décembre, elle a ses paroles, effectivement, en disant « sidération, machin ». Effectivement, les images, elles sont choquantes, mais justement, elles appellent la raison, elles appellent à regarder, à fouiller, elles attirent l'attention sur quelque chose qu'on ne montre pas. Est-ce que ERTA va montrer les 10% de mortalité naturelle, entre guillemets, dont elle parle? Non, jamais. Est-ce qu'ils vont montrer ces truies dans les cages à téter à travers les barreaux? Jamais. Est-ce qu'ils vont montrer la coupe des queues, la castration à vif et tout ça? Ben non, jamais. Donc effectivement, il y a sidération parce que personne ne sait ce qui se passe derrière les murs des élevages et des abattoirs. Mais nous, on ne s'arrête pas à la sidération. On propose des solutions. Alors des solutions à court terme, réduire les souffrances des animaux aujourd'hui et démocratiser l'alimentation végétale. Et puis on a quand même comme objectif de dire, ben, les animaux, on pourrait les considérer autrement que comme de la nourriture et en faire des cohabitants de notre planète. Et donc on propose plein d'actions, plein de solutions sur notre site L214.com.
Merci beaucoup Brigitte Gauthier. Je rappelle que vous êtes directrice et cofondatrice de l'association L214. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci. Dans un instant...